Cette semaine dans l'éco-économique, nous allons parler avec vous, Marie-Carmel Ridoré, du triangle de la fraude. Développé dans les années 80 par Donald Cressier, ce modèle permet d'expliquer quelles sont les raisons qui vont pousser un individu à commettre une fraude. Vous nous parlez un peu plus en détail de ce fameux triangle de la fraude.
Donc selon la théorie du triangle de la fraude, il faut que trois conditions soient réalisées. Par conséquent, si l'une d'entre elles fait défaut, il n'y aura tout simplement pas de fraude. Alors le premier élément que Cressier met en avant, c'est la motivation. Pour qu'un fraudeur passe à l'acte, il est indispensable qu'il ait une motivation. Par exemple, ça peut être l'appât du gain, le maintien d'un certain niveau de vie ou la pression qui peut être exercée par certaines entreprises pour atteindre des objectifs beaucoup trop élevés. Donc ce sont là des raisons qui peuvent facilement pousser un individu à commettre une fraude.
Mais le fraudeur, il ne se sent pas coupable lorsqu'il passe à l'acte ?
Vous posez là une question qui est tout à fait pertinente et qui me permet d'aborder donc le deuxième sommet du triangle de la fraude, à savoir la justification. Alors en justifiant son acte, le fraudeur va le rendre acceptable, du moins à ses yeux. Donc il va perdre tout sentiment de culpabilité. Pour éviter que les employés perdent ce sentiment de culpabilité, il est vraiment primordial pour une entreprise de mettre en place un code de conduite afin de transmettre les pratiques qui délimitent de manière claire et sans équivoque le comportement attendu de chaque employé. Cette charte d'éthique évitera donc la subjectivité d'interprétation personnelle propre à chaque individu.
En admettant qu'une personne puisse motiver et justifier son acte, il y a quand même des contrôles qui sont mis en place au sein des entreprises pour empêcher les fraudes, non ?
Je répondrai à cette question en vous disant que sans opportunité, il n'y a simplement pas de crime. Donc s'il est vrai que de nombreuses entreprises ont recours à des systèmes de contrôle anti-fraude, ces derniers comportent bien souvent donc des lacunes. Et pour le fraudeur, ces lacunes, ce sont des opportunités qu'il va saisir pour réaliser ses infractions. Alors, l'attractivité d'une opportunité va dépendre du risque encouru pour le fraudeur, ainsi que de la probabilité d'être découvert et de la sévérité de la peine potentielle donc, qu'il pourrait subir. Le fraudeur va mettre en balance ces différents éléments et décider sur cette base s'il va passer à l'acte ou non. Concernant l'opportunité, il est aussi important de savoir que la plupart du temps, le fraudeur ne recherche pas lui-même les failles du système. Donc ses points faibles se présentent généralement à lui par hasard et c'est à ce moment-là qu'il va se laisser tenter. C'est ce qu'on appelle plus communément la criminalité par opportunité. Et c'est sur cet axe-là que les entreprises ont le plus d'influence pour parer les fraudes.
Donc au résumé, on peut dire que les trois conditions nécessaires à la réalisation d'une fraude, c'est la motivation, la justification et l'opportunité.
Exactement. Cependant, donc, certains chercheurs ont tenté de compléter la théorie du triangle de la fraude pour aboutir à celle du diamant de la fraude, en y ajoutant donc la notion de compétence. En effet, donc, pour élaborer une fraude économique, dans quelconque domaine que ce soit, le fraudeur doit avoir une parfaite connaissance de ce dernier.